Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika.
Bonjour, 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 auditrices et auditeurs de Radio Galère pour cette émission Livres et Amis du mercredi 22 novembre. Nous avions décidé pour l'automne de parler de femmes d'Afrique à travers quelques œuvres de femmes d'origine africaine, justement. Nous avons commencé assez tranquillement avec La Discrétion de Faïza Guen, qui nous a retenu 2 semaines. Et il fallait bien ça pour le parcours de Yamina et de ses enfants sur les 2 rives de la Méditerranée de 1950 à nos jours. Même si le cheminement de Yamina n'est pas seulement bordé de roses, il ne connaît pas l'horreur pure de certains faits divers ou de certaines bavures policières marseillaises et nanterroises. Yamina et ses enfants ont échappé au pire. Hélas, ce n'est pas le cas de notre héroïne et auteure ou autrice du jour, Tatiana Mukanire Bangalire. Nous allons vous lire le témoignage de cette femme congolaise, au-delà de nos larmes, qui exprime les horreurs subies par la population et par les femmes encore davantage pendant les années de guerre qui se sont succédées dans l'Est africain. Le terrible destin de Tatiana est malheureusement la réalité à laquelle sont confrontées des centaines de milliers, voire des millions de femmes au Congo et dans les pays limitrophes depuis plus de 5 décennies maintenant. Commençons par l'analyse de la situation que fait Hugues de Vavrin, un praticien de Médecins du Monde, en même temps qu'il présente Denis Mukwege, l'homme qui répare les femmes, dont on aura à reparler un petit peu plus tard. La République démocratique du Congo, ex-Zaïre, est une ancienne colonie belge, ancienne propriété personnelle du roi des Belges. Au cœur du continent africain, la RDC est le 2e pays par sa superficie et le 4e par sa population. Elle a acquis son indépendance en 1960. Ses frontières orientales, traversées par les troubles les plus graves, sont délimitées par les Grands Lacs et les pays limitrophes qu'on connaît bien, le Rwanda et le Burundi. Mais il y en a d'autres qui ont aussi fait parler d'eux, l'Ouganda, la Tanzanie et en ce moment, par exemple, le Soudan et le Darfour. Au Congo, une colonisation particulièrement brutale, puis des régimes quasi dictatoriaux dans l'indépendance et la post-indépendance, des conflits ethniques, des migrations, des invasions, des affrontements politiques, d'innombrables rivalités entre milices pour s'accaparer les richesses du sous-sol. Tout cela a fait de la RDC et de ses voisins une terre de grande souffrance, dans un silence souvent assourdissant. La violence et la cruauté y atteignent l'inimaginable. C'est à Bukavu, au sud du lac Kivu, à la frontière du Rwanda et du Burundi, que le docteur Mukwege a créé l'hôpital de Panzi, il y a plus de 20 ans maintenant, pour soigner, pour réparer, comme il le dit lui-même, les femmes qui ont subi des viols et des violences sexuelles. Ce sont des dizaines de milliers d'entre elles qui ont frappé à sa porte. Et impossible de connaître le nombre, sans aucun doute vertigineux, de victimes décédées lors d'agressions ou sur le chemin de l'hôpital. Dans ces zones, le viol est devenu une arme de destruction massive, une bombe à fragmentation. Non seulement il détruit les victimes dans leur chair, dans leur tête, mais il mène irrémédiablement à l'éclatement des familles, des communautés villageoises, des ethnies. Denis Mukwege est bien plus qu'un chirurgien. Après les soins médicaux, ses patientes sont accueillies dans 2 structures, la Cité de la Joie et la Fondation Panzi, qui les aident à se reconstruire, à apprendre un métier, à retrouver leur dignité et enfin à témoigner. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 2018 et l'attribution du prix Nobel a permis de dire au monde combien son engagement quotidien auprès des femmes était exceptionnel. Il opère toujours dans son hôpital qu'il ne peut plus quitter car il est menacé de mort. L'infatigable docteur, déjà victime d'un attentat en 2012, a appelé la communauté internationale à l'aide, mais sans grand succès. Denis Mukwege m'a proposé de rencontrer la représentante des survivantes congolaises, Tatiana Mukanyere. Avant de me quitter, donc, nous avons eu d'abord un tête-à-tête bouleversant. Et avant de me quitter, elle a fouillé dans un grand sac, m'a remis une pochette avec ces mots: vous me direz si on peut en faire quelque chose. Le contenu de cette pochette, avec l'aide et l'engagement des éditions des femmes, Antoinette Fouque, c'est ce texte que nous avons maintenant entre les mains. Donc, le livre, oui, le livre, c'est un livre de témoignages, un livre de témoignages de femmes qui a subi l'horreur des violences au Congo et, comme on l'a vu, dans les territoires frontaliers, en ce qui la concerne depuis les années 90, en ce qui concerne l'ensemble de la population, pratiquement depuis les années 70, et vraiment jusqu'à nos jours, puisque ça continue. Le livre s'ouvre donc sur une brève présentation des faits, avec une carte. À la radio, une carte, évidemment, c'est pas commode, mais tout de même, si vous visualisez un petit peu la région ou le pays dont il s'agit, nous sommes en effet au cœur de la guerre avec le Kivu et ses voisins immédiats, le Rwanda, le Burundi, qui se sont fait connaître par leurs horreurs respectives. Pas beaucoup, pas besoin de beaucoup d'explications. Et puis, donc, comme on l'a vu, tous ces groupes armés, toutes ces milices qui viennent quelquefois de plus loin, qui sont payés par d'autres et qui cherchent à mettre la main sur les richesses locales. Donc, tous ces raids que mènent des groupes armés qui viennent de Tanzanie, d'Ouganda, du Soudan, etc. Depuis 3 à 5 décennies, on pourrait dire que personne n'y comprend plus rien. Les paysans locaux sont razziés ou raquettés quand ils sont sur la route des groupes armés. Les enfants sont enlevés comme enfants soldats. Les femmes violées ou enlevées comme esclaves sexuels. Probablement 20 millions de morts en 30 ans. Et évidemment, bien d'autres millions envoyés sur les routes de l'exil. Bien d'autres millions traumatisés à vie par ce qu'ils ont subi, sans véritable boussole géopolitique. Les femmes sont à la fois gibier et monnaie d'échange. Le docteur Mukwege à Panzi, au Kivu, soigne les femmes et attire notre attention sur la personnalité de Tatiana Mukanyere. C'est Françoise qui va nous lire en particulier ce qu'on peut dire d'elle au départ, ou ce que dit d'elle justement le docteur Mukwege.
Néanmoins, face à l'adversité, comme tant d'autres victimes de viol que nous avons soignées à Panzi, Tatiana n'a pas courbé les chines. Elle a eu l'audace de se battre pour dompter la douleur, pour se reconstruire et survivre à l'innommable. Aujourd'hui, elle est le porte-voix de combats de milliers de victimes de violences sexuelles et la figure de proue du Mouvement national des survivantes. Ce mouvement vise notamment à mobiliser le monde pour rompre le silence face aux violences sexuelles, pour combattre ces barbaries et pour soutenir concrètement les victimes. Le courage de Tatiana a transformé la peine de l'humiliation en pouvoir de renaître des cendres, force le respect. Son rebond est une source d'inspiration. Il projette sur notre existence les couleurs de l'optimisme. Son récit dresse un tableau macabre des guerres à répétition à l'est de la RDC. Les images de femmes égorgées avec leurs bébés au dos rappellent crûment à la conscience de notre humanité le film des millions de morts qui jonchent les pages maculées de sang du rapport Mapping des Nations Unies sur les crimes contre l'humanité commis en RDC depuis 1993 et qui à ce jour restent impunis. Je vous recommande chaudement la lecture de cet ouvrage marqué du sceau de la résilience.
Eh bien, nous allons suivre son conseil. Nous allons en effet lire cet ouvrage. Et avant de lire les propos de Tatiana elle-même, nous écouterons ce que dit son oncle Well. Son oncle Well, il a une opinion qu'on peut partager également sur les minerais de l'Est africain, sur les richesses de l'Est africain, l'or de la guerre, le nerf de la guerre aussi. L'oncle Well pense que tous ces minerais sont hantés, car la première personne à voir le minerai et à le prendre dans ses mains ne pourra jamais s'enrichir, ni même améliorer son niveau de vie grâce à ce travail. Le malheur veut que la population soit tuée, afin qu'on lui arrache tous ces minerais qui ne lui servent pratiquement à rien. Ces minerais qui lui sont arrachés pour être traités à des milliers de kilomètres et qui reviennent dans un téléphone portable ou dans de nombreux appareils électroniques ou, ce qui est encore le plus frappant, dans des balles qui vont finir par les tuer. Dans nos propres téléphones coule le sang de nos frères congolais. Le minerai qui améliore le fonctionnement de ces téléphones est le fruit du sang et de la sueur des Congolais. C'est ce qui a conduit à parler du sang dans nos portables. Mais s'agit-il seulement du sang de milliers, de centaines de milliers de femmes, d'enfants et d'hommes ? Je pense que ces minerais ont encore plus détruit nos âmes et notre sens de l'humanité. Aujourd'hui, il faudrait dire nos âmes mortes dans nos portables. Et il n'y a pas que le coltan qui nous a conduits dans ce trou noir. Il y a aussi les diamants, le cobalt, l'or et le cuivre. Une chose est dure à comprendre. Les cris des mères, des filles, des petites filles et de certains hommes continuent de retentir. Des femmes sont violées par dizaines, par centaines, quelquefois en une seule nuit. Personne n'en parle. On ne parle souvent que des morts, et encore. Si on en parle, on dit qu'il n'y en a pas tant que ça, on dit que ce n'est pas grave, et puis on se tait. Pas de déclaration, pas d'excuses, pas de punition, pas de poursuite. En fait, tout le monde est impliqué, du plus jeune au plus vieux, du plus pauvre au plus riche, puisque tous nous utilisons nos téléphones et notre matériel électronique en fermant les yeux devant ces milliers, ces centaines de milliers de morts ou de femmes violées, mortes dans leur propre corps. Alors, c'est un peu une analyse, en effet, économique et sociale de ce qui se passe dans l'Est de l'Afrique. Ça sera presque la seule de tout le livre. Le restant, ce sont, comme nous l'avons dit tout à l'heure, des témoignages. Et on va retrouver les témoignages de Tatiana et de ses amis. Elle les appelle Sarah, elle les appelle Constanza ou d'autres prénoms qu'elle va utiliser, on pourrait presque dire au hasard des pages, puisque bien sûr, elle ne nomme pas les personnes individuellement. Puisqu'elle s'abstient de tout commentaire personnel, mais que tout simplement, elle parle de ce qui arrive à la population et en particulier aux femmes. Et elle nous explique justement qu'ils ont perdu jusqu'à leur identité.
Je suis née à l'époque où mon pays s'appelait le Zaïre. Par la suite, le Zaïre a changé de nom. Depuis le début de son existence, le nom de ce pays a changé plusieurs fois. On dirait qu'à plusieurs reprises, mon pays lui-même ne savait plus qui il était vraiment. Maintenant, il s'appelle République démocratique du Congo, RDC, ce nom d'un territoire qui regroupe des centaines de tribus et de langues, qui a vu des milliers de ses enfants mourir sans que personne ne s'en préoccupe. Je suis ces milliers de femmes, d'hommes et d'enfants non répertoriés, morts par balles, de maladies, de fatigue. Je m'appelle Natacha. Je m'appelle Sarah. J'ai été victime, j'ai été témoin, j'ai recueilli des témoignages. Je suis toutes ces femmes. Je peux parfois m'appeler Natacha, Sarah, Lucie ou avoir bien d'autres noms encore.
En fait, Tatiana, c'est un peu la femme universelle. Et comme telle, elle s'adresse aussi aux violeurs universels. Lettre à son bourreau, lettre à ceux qui lui ont fait subir l'horreur.
Pour briser mon silence, accepter mon passé et prendre un nouvel élan, j'ai écrit une lettre dont je ne sais si elle arrivera un jour dans les mains de ses destinataires, dans les mains de ceux qui m'ont violée en violant une femme, dans les mains de ceux qui, en violant une petite fille, ont saccagé et détruit l'innocence de l'enfance. Cette lettre est adressée à tous ces violeurs et à tous ceux qui pourront penser, ne serait-ce qu'une seconde, qu'il est acceptable et même normal de violer une personne. Bonjour à toi, mon violeur, mon bourreau. Tu devras savoir que je n'ai rien oublié et que je n'oublierai jamais. Tu feras semblant de rien, mais si j'étais toi, j'aurais honte. Les frères, les maris, les enfants, les familles se souviennent de ce moment où tu as abusé de leur mère, de leur sœur, de leur femme, de leur fille. Tu m'as humilié, tu m'as terrorisé, ainsi que mes proches. Tous ces cris, ces pleurs ne venaient pas seulement de moi. Je suis sûre que toi aussi tu t'en souviens. Te souviens-tu d'avoir détruit la vie de cette petite fille de quelques mois ou de celle qui avait 8 ans? Elle a pleuré, elle a souffert, mais toi tu ne t'es pas arrêtée. Tu as même mutilé ses organes génitaux. Je ne sais plus si tu peux t'appeler homme, car pour moi, tu n'as plus rien d'un humain. Au fond de toi, tu ne reconnais plus que la femme est sacrée. Peux-tu réaliser que même après des années, elle souffre au fond d'elle-même? Il y avait 1000 et 1 raisons de désespérer, mais la seule raison d'espérer restait mon honneur. Au fond de ma douleur, je savais que j'étais meilleure que toi. Je me demande souvent quelle place tu mérites dans ce monde. Je n'en trouve aucune. Tu n'as pas le droit d'exister. Tu sauras que maintenant, plus que jamais, je n'ai plus peur de toi. Tu m'as donné le courage de te combattre. J'ai fait face à toute cette douleur que tu m'as infligée. J'ai quitté cet enfer dans lequel tu m'as laissé. Contrairement à toi, je peux colorer mon monde de joie, de bonté, de justice et de paix, car je n'ai pas peur de revivre et de reconstruire ma vie. Derrière mon courage et ma force, il y a eu une grande tristesse, une humiliation et un traumatisme profond à cause de tout ce que tu m'as fait subir, à moi et à plus de 3 millions de femmes de mon pays. Beaucoup de tes victimes n'ont pas survécu. Les autres survivent avec des maladies chroniques. Pour moi, l'espoir était fragile et ne tenait qu'au fil de ma volonté. Mais c'est cette douleur qui m'a appris à me battre et m'a transformée en une personne plus forte et meilleure. J'ai dès lors décidé de te faire face. Tu sais que je me suis déjà battue pour récupérer ma fierté, mon honneur et ma force. Malgré la situation difficile de mon pays, je travaille dans l'agriculture, l'élevage et le petit commerce. Je suis devenue une actrice active dans le développement de ma communauté. Je me bats et je continuerai à me battre pour que plus jamais tu ne recommences.
C'est la femme universelle donc qui s'adresse, on pourrait dire aussi, aux violeurs universels et qui montre que la société doit, on pourrait dire, effacer la douleur des femmes, leur permettre de se reconstruire et que la société ne doit pas, comme elle le fait hélas trop souvent en Afrique de l'Est, au contraire continuer à condamner les femmes justement victimes de viol. Donc Tatiana Mukanyere, en tant que femme, elle cherche à briser le silence sur le viol, elle cherche à briser le silence autour du viol. Elle cherche justement à refuser le déshonneur et à lutter contre les structures sociales qui font que le déshonneur persiste. Elle cherche à continuer à vivre et à se battre. C'est ce qu'elle nous explique. Ces mots ont été écrits pour les personnes qui ne les liront peut-être jamais. Mais peut-être pourront-ils ramener à la raison tous ceux qui, par ignorance ou par mauvaise foi, voudraient encore commettre ces actes ignobles. Depuis longtemps, depuis toujours peut-être, les viols ont été considérés comme un tabou dont il ne fallait jamais parler. Ces viols commis dans la lumière, commis dans les ténèbres, le jour, la nuit, ils ne sont ni un mythe ni une fiction. Ils sont commis souvent devant les familles ou devant des inconnus. Par des inconnus, oui, ou même parfois par des proches. Pourquoi est-ce que ça serait continuer à être un tabou de ne pas en parler. Pourquoi est-ce que ça serait continuer à être une honte, une faute, au point que même une femme ne peut pas en parler et que, en effet, parler devient une faute, un crime ? Quelles barrières avons-nous franchies ? Quelles règles avons-nous transgressées en disant haut et fort ce qui nous a détruites pendant si longtemps ? Quelles règles allons-nous transgresser maintenant pour briser les chaînes de la douleur et du tabou ? Parce que ne pas briser le silence, c'est mourir au plus profond de soi. Souvent, les regards que les autres portent sur nous, c'est la stigmatisation, c'est le rejet. Et cela, nous en souffrons, ça nous pousse à nous réfugier dans le silence, à nous cacher, ça nous pousse à la honte. Alors au contraire, si les violeurs peuvent se donner l'audace de détruire ce que d'autres personnes ont de plus précieux et qu'elles ont mis tant de temps à construire, l'amour, le sourire, le bonheur, l'identité familiale, pourquoi en retour ne pas oser à chercher à détruire les violeurs ? Pourquoi en retour ne pas oser chercher à punir en brisant les chaînes de la honte et du silence ? Depuis des décennies, dans ce pays de désespoir, les violeurs ont utilisé le viol comme une arme de guerre, détruisant tout sur leur passage, les corps, les âmes, la structure sociale. Aujourd'hui encore, je suis Sarah, je suis Natacha, ces femmes courageuses qui, malgré la douleur, alors qu'elles ne pouvaient plus quitter leur lit ou que même les médecins avaient perdu l'espoir de les sauver, ces femmes se sont accrochées à la vie. Et elles ont retrouvé le courage d'espérer, le courage de se redresser, le courage de revivre. Être violée, c'est mourir tout en respirant. Mais ensuite, il faut s'accrocher à la seule chose qui reste, il faut s'accrocher à la soif de vengeance peut-être, mais surtout à la volonté de punition des voleurs, à la recherche de leur honte à eux et pas de la nôtre. Alors, les femmes doivent continuer à vivre et à se battre. Elles doivent marcher tête haute. Elles ne doivent pas avoir honte. Elles doivent chercher à faire punir les violeurs parce qu'ils appartiennent aux communautés qui les environnent. Il faut, oui, punir les coupables. Ils sont tous coupables. Sarah, Natacha, représentent toutes ces femmes courageuses. Elles sont le symbole du courage et de la force de toutes ces femmes, de toutes ces filles, de toutes ces petites filles, et certains hommes aussi, que j'appelle aujourd'hui les survivantes et les survivants de la cruauté humaine. Oui, les survivantes ou les survivants, c'est aussi le titre que le docteur Mukwege a donné aux femmes qu'il abrite dans son hôpital et dans le centre social qui l'entoure. Les survivantes, Tatiana Mukanyere en fait partie, et elle les incarne en fait. Elle incarne la force de ces survivantes qui, une fois de plus, se redressent et vont combattre pour retrouver les violeurs, pour les dénoncer, pour les faire punir. On va chercher un peu d'apaisement quand même. Dans la musique, on va chercher l'apaisement dans la musique d'un célèbre musicien à la fois de musique traditionnelle et de jazz de la République du Congo. C'est Ray Lema. Et en fait, il a fait beaucoup de genres de musique différents, Ray Lema. Et il a fait une chanson que je vous invite à aller écouter en français qui s'appelle « Les oubliés du Kivu ». Et là, nous allons l'écouter dans, disons, des rythmes plus traditionnels puisque c'est Ray Lema avec Timbu Project. Donc, on écoute sa musique qui est vraisemblablement en Kikongo ou en Lingala. Je vous dirai ça tout à l'heure.
Lendo, va, Yanuledo, za Yanuledo, fumu varatunu.
Tata wepuzulu, umbapu ya sembunge, wajambiti kandi na sala kokoma. Gebiti bia bio sono, kwa yambiri kandi bia salamo kumaku. Bantu pe munzagi, eberi wasara bozo, kwa yambiri kandi bia salamo kumaku.
Zambi, zambi, zambi yokongo la kosambela, mozani siwa nikolo la se. Kembo na yo, mozani siwa bikela monyonso.
Nza, yalulendo, nza, yalulendo, vanatunu. Nza, yalulendo, nza, yalulendo, fumu, vanatunu.
Celle de Relema, comme beaucoup d'artistes et de musiciens du Congo, il est plutôt de l'ouest du Congo, de la région de Kinshasa, les berges du fleuve Congo, justement, là où il y a Brazzaville en face, et cette culture très, très riche d'ailleurs, à la fois plasticienne, musicale, etc. Mais tout en étant de l'ouest du Congo, ben, comme on le disait, il s'est intéressé à ces horreurs de l'Est. Et quand il a écrit Les Oubliés du Kivu, c'est parce qu'il voulait vraiment souligner que les peuples de l'Est sont vraiment les oubliés. Ils subissent l'horreur et finalement, personne ne connaît vraiment leur situation et ne se préoccupe justement de les protéger. Alors, revenons à cette situation. En fait, tout est très confus. On a l'impression, avec les allers-retours de bandes armées, de vengeance d'un groupe ethnique à l'autre ou d'une milice à l'autre, que, comme on le disait tout à l'heure, c'est toujours la population qui paye et qui paye directement. Même si il est très difficile de savoir ce qui se passe en réalité, bah, Tatiana, à un moment, là, dans le livre, elle essaye d'éclaircir les choses. Elle va nous dire un certain nombre d'éléments sur la situation.
Il y a plusieurs années, la République démocratique du Congo s'appelait le Zaïre. Sa population était hospitalière, mais naïve aussi. En 1994, plus d'un million de réfugiés rwandais traversent les frontières du Nord Kivu et du Sud Kivu à l'est du pays. Ils s'installent dans des camps, dans les centres-villes, comme dans les villages à proximité des villes. Ces Rwandais se mêlent à la population autochtone et certains d'entre eux se marient avec des filles zaïroises et vice-versa. En 1994, les réfugiés ont traversé la frontière avec tout ce qu'ils possédaient, y compris des armes. Ces réfugiés étaient des travailleurs, mais c'étaient en même temps des personnes traumatisées, animées par une grande soif de vengeance. Le génocide rwandais venait de se terminer, mais ils traversaient les frontières du Zaïre. En 1996, une guerre éclate dans l'ex-Zaïre, en commençant par l'est du pays. C'est là que se trouve l'épicentre des conflits. Les femmes de mon pays se sont réveillées comme tous les autres jours pour vaquer à leurs occupations quotidiennes. Elles se sont rendues aux champs, où elles sont allées chercher de l'eau. Elles se sont installées dans le petit marché pour vendre leurs légumes. Comme moi, elles se sont rendues à l'école quand leurs parents ou leurs tuteurs avaient compris l'utilité de scolariser les filles. Elles ont accompli beaucoup d'autres tâches. À cette époque, certaines des Sarah qui aujourd'hui sont survivantes n'étaient pas encore nées. La guerre a éclaté dans les hauts plateaux à l'est du pays. Nous ne savions pas encore qu'il avait glissé dans un abîme et que nos rêves étaient en train de s'effondrer. Je ne comprenais pas encore que mon calvaire venait de commencer. Cette guerre a dépassé tout entendement. Avec son cortège de souffrances, de victimes civiles, ses cohortes de réfugiés, sa confusion militaire. Cette guerre ne montrera jamais son vrai visage. Elle est parvenue à détricoter tout le tissu social de notre pays. Bukavu est une ville sinistrée située à l'est de la République démocratique du Congo, au bord du lac Kivu, surplombée par des collines où il n'y a ni infrastructure de base telles que les hôpitaux, les routes, ni eau potable, ni électricité, ni école, comme on l'entend généralement dans le monde. C'est une ville où s'il pleut, il y a trop de boue, où les érosions emportent des maisons et tuent leurs habitants. Pendant la saison sèche, il y a un soleil accablant qui engendre la poussière, cette poussière qui rend les gens malades. À cause des épidémies, des pneumopathies, l'absence d'eau dans les robinets provoque le choléra et d'autres maladies qu'on appelle maladies des mains sales. Il y a de cela plus de 30 ans, la population congolaise était naïve et continuait de rêver à des lendemains meilleurs, malgré la dictature de l'ancien président Joseph Mobutu, qui dilapidait les ressources du pays. Mais au fil des années, tout a changé. La situation sécuritaire et économique est devenue de plus en plus critique. Personne ne s'expliquait pourquoi la vie des Zaïrois avait changé aussi brusquement. À cette époque, les moyens de communication étaient presque inexistants. Pour communiquer d'un bout à l'autre du pays et être informé, on utilisait la radio, le téléphone s'il existait, le courrier qui passait d'une main à l'autre avec le risque qu'il n'arrive pas à destination. En 1996, la vie des gens connut un bouleversement total. La plupart des Zaïrois n'avaient encore jamais vécu la guerre et d'un coup, boum, on l'appelait la guerre de libération. C'est au cours du dernier trimestre de cette année-là qu'elle a commencé au sud Kivu.
Oui, donc en fait, confusion déjà dans les années 80-90 et puis accélération du processus, accélération des violences à partir des années 90 en conséquence des massacres du Rwanda, mais pas seulement, conséquence aussi en effet du désordre politique à l'intérieur de la République du Congo. Le portrait que fait Tatiana à la fois du président et du système est assez intéressant. Le président se considérait comme un dieu unique et presque tout le monde le craignait. Depuis plusieurs années, juste avant les informations à la télévision nationale, l'image du président apparaissait dans les cieux et tout le monde pensait que c'était vraiment un dieu. Et en même temps, les choses commençaient à lui échapper. Il avait fait du mal au peuple par la torture, par le meurtre, et bien des personnes n'étaient ni prêtes à oublier, ni prêtes à tourner la page. En même temps, de plus en plus de monde avait envie d'améliorer leur vie. Et c'est alors que la guerre de libération a éclaté. Dès la première seconde du premier tir, la population a commencé à voir son fantôme dans son miroir. Oui, belle expression africaine pour dire qu'ils étaient déjà morts. Personne ne savait le pourquoi de cette guerre et les gens se demandaient pourquoi les rebelles se battaient. On ne savait pas si c'était au profit du pouvoir en place ou pour l'intérêt de la population. Enfin, pour l'intérêt de la population, non, sûrement pas. Donc, au profit du pouvoir en place, au profit d'un autre pouvoir, au profit des sociétés étrangères qui manipulaient les milices, oui, sûrement. À ces questions, il n'y avait pas de réponse claire. Au cours du mois d'octobre 1996, la guerre a éclaté dans la ville de Bukavu elle-même. C'était pendant la saison des pluies et tout était fermé, les écoles, les marchés, les hôpitaux. Et pire encore, à un moment, il s'est arrêté de pleuvoir, comme si le cours des saisons lui-même ne pouvait plus rester normal. Comme si la peur avait peur de sortir autant que le soleil. Tout était froid, les balles fusaient de partout. Les morts jonchaient les routes se peignaient en rouge, c'était le rouge du sang des Aïrois. On sait tous que la mort fait partie de la vie, mais personne ne voudrait ni ne choisirait jamais de choisir de mourir de cette façon. Tant de Congolais ont perdu la vie depuis, et on ne saura jamais pourquoi. Pourquoi nous, toujours nous? Cette fichue guerre se fiche de tout et de tous. La mort ne choisit pas qui tu es, la mort. Elle ravage les populations et c'est tout. C'est ainsi que les gens de toutes les catégories sociales et de tous les âges ont disparu, comme des morts en cascade. À partir du 29 octobre, tout a basculé pour les gens du Sud Kivu et particulièrement pour les gens de Bukavu. La majorité des gens fuyaient, ils couraient en tous sens, ils cherchaient un refuge, un abri, un endroit sûr. Ils se mêlaient aux populations de Rwandais qui avaient déjà traversé les frontières, qui éventuellement retournaient chez eux ou qui, au contraire, entraient plus profondément dans le pays. Chacun se disait qu'il fallait bouger, qu'il fallait chercher un autre endroit. Mais un pays immense comme le Zaïre était devenu trop petit. Personne n'aurait pu imaginer ça. En fait, on n'était jamais en sécurité. Il n'y avait aucun endroit où on était en sécurité. Même dans son propre corps. On aurait bien voulu être un oiseau et voler loin de cet enfer. Mais tout cela n'était pas un film, non, c'est pas du tout le rêve, c'était la réalité, ça se passait en temps réel. On a éteint les télévisions, de toute façon elles ne fonctionnaient plus, et on a cherché à se réveiller de ce cauchemar, mais impossible, ce n'était pas un cauchemar, c'était la réalité. La guerre évoluait si rapidement, elle balayait le pays si rapidement que la population ne pouvait pas analyser les choses, ne pouvait pas vraiment se rendre compte de ce qui se passait. Les gardiens de l'ordre, les forces de sécurité, les policiers, les militaires, ils avaient été les premiers à s'enfuir en criant « Mais non, le pays est vendu, le pays a été vendu !» Quelle ironie! Ces militaires, ils avaient oublié que quelques mois auparavant, ils se permettaient de tirer en l'air pour des journées entières en disant que c'était la musique de l'État et que c'était la protection de la population. En fait, cette armée, ces groupes armés, ils manquaient totalement de professionnalisme. Tout ce qu'ils savaient, c'était faire du baratin, oui, mais sûrement pas la guerre. Si les personnes dont la mission était d'assurer la sécurité de la population étaient celles-là même qui étaient en proie à la panique, c'était clair qu'ils n'allaient pas nous protéger, qu'ils ne pouvaient plus nous protéger et que plus rien de normal ne pouvait se passer. Comment répondre à ces questions? Qui avait vendu le pays? Qui aurait vendu le pays? Qu'est-ce que c'était que cette histoire? Qu'est-ce que finalement ça rapportait? Bon, on ne sait pas trop. La population autochtone, les réfugiés, les politiques, l'armée, tous fuyaient. Et tous fuyaient devant des groupes armés qu'on ne connaissait pas. Personne ne pouvait expliquer ce qui était en train de se passer. Les soldats en arrivaient même à déchirer leurs uniformes et à reprendre leur tenue civile pour se fondre dans la population. Un désespoir total avait envahi les cœurs de la population civile qui se trouvait totalement abandonnée à elle-même et sans défense. Alors cette guerre s'est déroulée dans le silence de l'information. Nous mourions, oui, nous mourions sur les routes, mais finalement, personne ne le savait. Les radios n'émettaient plus, La population n'était informée sur rien de ce qui se passait, sur l'origine ou les progressions de la guerre. Chacun avait sa propre interprétation. La haine grandissait à l'intérieur des groupes contre les autres groupes. On ne savait pas vraiment qui avait provoqué la guerre. On ne savait pas vraiment qui en tirait bénéfice. Enfin, les grandes sociétés étrangères, oui, sûrement, mais comment ? On ne savait pas vraiment où était la véritable identité des groupes et des populations qui allaient d'un coin à l'autre du pays. Certains pasteurs prêchaient la non-violence et demandaient aux gens de ne pas quitter leur maison. Mais la peur était trop grande. Les gens prenaient la fuite même s'ils ne savaient pas où aller. La majorité de la population, terrorisée, choisissait de partir sans vraiment savoir où elle allait. Désemparés, certains empruntaient la route que d'autres prenaient dans l'autre sens. Et puis finalement, ils rentraient se terrer dans leur maison. D'autres, épuisés de fatigue, en effet, rebroussaient chemin, décidaient de rentrer ou cherchaient un autre abri. L'horreur. Oui, des scènes d'horreur, des scènes absolument impossibles à raconter, des scènes inimaginables dans bien des cas. Je dois dire que je vous ferai grâce hein, un peu de ces lectures parce que ça fait froid dans le dos, parce que moi je ne suis pas capable de lire des choses comme ça et que peut-être, je ne sais pas si vous seriez capable de l'écouter. Les scènes d'horreur contre les civils, les scènes d'horreur de familles qu'on oblige à se tuer les uns les autres, qu'on oblige à commettre des crimes les uns contre les autres. La route du désespoir, les mortiers, les kalachnikovs, la débandade totale, les machettes, les corps sans vie le long des routes, les routes sur lesquelles se retrouvent des gens traumatisés, tellement traumatisés qu'ils ne savent plus ce qu'ils font et qui se mettent eux aussi à agresser les autres ou les autres groupes. Des scènes désolantes, des scènes d'une brutalité qu'on n'a pas du tout envie de répéter. Donc toute la population du nord ou du sud Kivu, toute la population de l'est de la RDC, toutes les populations frontalières qui sont venues d'ailleurs, subissent ces horreurs. On va juste faire un petit balayage de ce qui s'est passé et de ce que nous dit Tatiana Mukanire en édulcorant un certain nombre de choses, heureusement, puisqu'elle ne nous raconte pas tout.
Toute la population du Nord et du Sud Kivu en particulier, et tous les habitants du pays en général, ont perdu quelqu'un, un être cher, un parent, un frère, un ami ou un proche. Ils sont morts par balles, de fatigue, de maladie ou de faim. Certains ont été les seuls survivants d'une famille entière, tandis que d'autres familles ont été totalement exterminées. Nous sommes déjà en 2019, mais cette population n'a encore jamais eu le temps de pleurer ces milliers de morts. Personne n'a eu le temps de pleurer ces morts selon la coutume. Presque tous les morts ont été abandonnés. Les rites consistant à enterrer les morts dans l'honneur, à leur faire un dernier adieu, n'ont malheureusement jamais été pratiqués. Certains, plus courageux, ont pu creuser un petit trou devant leur maison ou au bord de la route pour enterrer leurs morts, pour honorer le souvenir de ces personnes exceptionnelles tuées par une balle fabriquée avec leurs propres minerais. Plus de 6 millions de morts non reconnus, comme si cela n'était jamais arrivé. Pourquoi est-ce que personne ne s'en soucie ? Ces personnes qui mouraient chaque seconde n'étaient-elles pas des êtres humains ? On parle de génocide, mais jamais de celui des Congolais. On juge des génocidaires, mais jamais ceux des Congolais. Qu'est-ce qui manque pour que cela arrive ? Qui sont les véritables génocidaires des Congolais ? La faim était partout et le pillage s'est répandu dans la ville entière. Militaires et civils, tous se servirent dans les boutiques, les maisons, les dépôts, les marchés. Certains le faisaient par manque de nourriture, pendant que d'autres voulaient s'enrichir et pensaient que c'était le bon moment. Pendant ces pillages, certains ont perdu la vie. D'autres ont été blessés au point de devenir handicapés. Quelques mois plus tard, en mai 1997, le pays entier fut libéré par ce qu'on a appelé la guerre de libération. Libération ou destruction ? La guerre ne paie pas, elle détruit sur son passage et efface tout ce qu'on a de plus précieux. Cette libération fut en réalité un coup d'État qui a remplacé un président dictateur par quelqu'un d'autre. Le chef de la rébellion, Laurent Désiré Kabila, était un de ces rescapés de la dictature de Mobutu qui avait frôlé la mort et avait pris le chemin de l'exil. Pour renforcer la rébellion de l'AFDL, Alliance des Forces
de Libération, de
libération du Congo, l'armée commença à recruter les jeunes, les Kadogo, enfants soldats en Swahili, furent enrôlés. C'était une multitude d'enfants qui étaient comme emportés par cette vague, ne sachant pas vraiment ce qu'ils voulaient. Certains avaient perdu un être aimé, d'autres voulaient dépasser leur peur et se faire croire qu'ils étaient forts, et d'autres encore, comme Moïse, ne savaient tout simplement pas pourquoi ils étaient là. C'étaient des petits adolescents ou des petits délinquants de quartier qui voulaient se rendre utiles ou se valoriser et se mettre en évidence. D'autres étaient aussi enrôlés de force. Ces enfants, dont certains avaient survécu à la guerre, n'étaient pas plus hauts que leurs fusils et se retrouvaient tout à coup incorporés dans l'armée nationale. Aujourd'hui encore, l'armée est constituée d'anciens enfants soldats dont l'esprit n'a pas encore été désarmé. Ils ont subi un lavage de cerveau et sont prêts à tout pour obtenir à la fois le respect et l'argent. Ils ont survécu en première ligne sur le champ de bataille et souvent, à cause de ça, ils s'imaginent qu'ils sont des super-héros alors que c'est juste la chance qui était de leur côté et leur a permis de survivre. En 1998, le pays fut divisé. L'Est fut de nouveau envahi. Cette guerre est venue saboter les espoirs de la population. Il y eut d'autres morts. Les belligérants étaient détestés par la population de l'Est qu'ils occupaient et qui provoqua des manifestations de colère presque toutes les semaines pour s'insurger contre l'occupation.
Oui, il y a en fait toujours les milices armées qui continuent à vivre sur le pays et la population civile ne supporte plus cela. Mais bien sûr, son poids est assez limité. Et Laurent Désiré Kabila, dont on vient de parler, il est assassiné en 2001. C'est Joseph Kabila qui lui succède, son fils. Le gouvernement national de Joseph Kabila ne réussit pas vraiment à stabiliser la situation. Pourtant, la guerre avait couvé pendant des années. Elle avait été inévitable. Et en fait, elle éclatait dans différents points du pays au fur et à mesure, en fonction de déséquilibres locaux, en fonction de ressentiments, en fonction surtout de soif de pouvoir ou d'argent que manifestaient les milices qui arrivaient éventuellement de l'étranger. Au-delà des réactions émotionnelles que suscitent les images, chez ceux qui n'ont pas vécu directement les guerres toujours recommencées, avec leurs victimes civiles fuyant les zones de combat, les pillages, les viols perpétrés par toutes les forces armées impliquées dans le conflit, le recrutement forcé d'enfants soldats, les questions de fond continuent à se poser. Pourquoi ces violences récurrentes dans notre pays ? Les morts ne sont pas comptés, les massacres à peine décrits, les tueries à répétition ne sont pas punies et ça recommence. Alors qui tue ? Des personnes non identifiées, nous dit-on ? Comment ça, des personnes non identifiées ? Si, bien sûr, on sait qui elles sont, on sait qui sont les groupes qui ont tué au fur et à mesure. Mais au Congo, les riches exploitent le coltan, l'or, le cobalt, le diamant, le cuivre et bien d'autres ressources minières. La population congolaise meurt de produits extraits de sa propre terre. Des Congolais très âgés meurent sans avoir vu de leurs yeux un seul de ces minerais, finalement. Il ne se passe pas un seul jour sans que cette population ne se désole de ce qu'est devenu sa vie aujourd'hui. Et pourquoi, finalement, vivre dans un pays si riche alors qu'on est soi-même si pauvre et si indigent? C'est vraiment la violence du capitalisme qui paye des milices et qui fait que l'exploitation des mines continue, même dans la guerre, alors que la population ne supporte plus justement toutes ces guerres. Une espèce de pauvreté permanente, une espèce de pauvreté larvée existante dans toutes les régions, avec toujours des violences insupportables, les violences contre les femmes dont on vous a parlé déjà tout à l'heure, les violences contre les enfants, effectivement, puisque, nous dit Tatiana, depuis deux ou trois décennies, des femmes, des petites filles ont été violées et ont subi des mutilations de leurs organes génitaux sans arrêt, puisque, en fait, elles étaient, comme on l'a dit déjà, à la fois gibier et monnaie d'échange. D'autres rébellions se sont développées et des personnes sans arrêt ont été victimes de représailles les unes et les autres. Et dans toutes les représailles, les femmes ont été des victimes particulières. Certaines femmes enceintes ont été éventrées, par exemple. Bon, certaines femmes violées ont survécu, mais pas d'autres. Et puis, certaines femmes violées ont été, comme on l'a dit beaucoup, ensuite porteuses de maladies qui ont fait qu'elles ont été mises au ban de la société. Quand des groupes armés entraient dans les villages, ils pénétraient de force dans les maisons. Et par exemple, une amie de Tatiana lui racontait que un groupe armé avait forcé sa porte, réclamé de l'argent, un téléphone, puis comme il n'y en avait pas, avait commencé à tabasser les hommes et à violer les femmes. En fait, quand l'armée s'est retirée du village, sur 11 personnes de la famille, 9 avaient été tuées. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment la suite de massacres que la population civile subit sans arrêt. Et c'est contre ces massacres, en effet, que, par exemple, des lieux comme celui du docteur Mukwege se sont développés. Une fois que les femmes ont subi des atrocités, une fois qu'elles ont assisté aux massacres, une fois qu'elles ont pu un petit peu être réparées de leurs mutilations, il faut en plus qu'elles puissent se reconstruire et qu'elles puissent revivre. Donc, l'appel à la paix de Tatiana Mukanyere, c'est vraiment un appel à la possibilité de reconstruction individuelle et de reconstruction sociale, que les femmes ne soient plus violées, bien sûr, et que les femmes ne soient plus mises au ban de la société lorsqu'elles ont été violées, qu'on les laisse redevenir à part entière des membres de la société, qu'elles reprennent leur place dans la société et qu'elles puissent, en se reconstruisant elles-mêmes, reconstruire précisément la société. Il y a dans le livre un certain nombre d'exemples, je vous l'ai dit, de femmes qui ont subi des violences atroces. Et en fait, ce qui compte plutôt que de décrire ces violences, c'est de dire que ces femmes, en groupe, ont pu en effet se reconstruire et qu'elles appellent de façon générale à l'internet, enfin sur le plan national et aussi à l'international, qu'elles appellent à pouvoir maintenant exister autrement, qu'elles appellent par exemple à ce que les lieux comme ceux du docteur Mukwege soient multipliés, que les hôpitaux et les centres sociaux puissent se développer pour véritablement mettre à l'abri les femmes qui, avec leurs enfants, puisque les viols aussi produisent des enfants, qu'elles puissent se mettre à l'abri, en effet, dans des lieux qui soient à l'avenir épargnés. Quelques pages encore nous demandent qui sont les violeurs en RDC, qui ont été les armées. Et à ces questions, en fait, il est probable qu'il n'y ait pas de véritable réponse internationale, parce que ceux qui sont à l'origine des combats, peut-être que les groupes armés ou les milices armées des grandes entreprises qui ont, d'une façon ou d'une autre, provoqué les combats, ou les oppositions entre les ethnies, ne tiennent pas du tout à payer justement les dommages de guerre pour les populations qui ont subi ces dommages. Alors, on va laisser Tatiana Mukanyere espérer, en effet, avec le docteur Mukwege, la reconstruction des femmes, la reconstruction du pays et la reconstruction du Kivu. On va donner un petit peu la parole, avant le générique, à Papa Wemba, qui est un grand chanteur congolais, lui aussi, enfin un grand musicien et chanteur congolais. Et Papa Wemba, il va nous parler de Maria Valencia.
mike mino mike o zoto moke na ma papu boko te pa te pa salibo solo kondo maria e tonga tonga libo sene lili na yo na sambelaka
yonde maria mama na ezo mosato Ave Maria, Maya Matame Mati, quelle beauté.
Papa Wemba, avant le générique, on va juste vous dire au revoir. On ne sera pas là la semaine prochaine, on ne sera pas là l'autre semaine, donc on vous fera mettre des rediffusions par nos techniciens. Eh bien, écoutez, on espère que tout se passera bien d'ici le début décembre et on vous retrouvera début décembre en studio pour reprendre l'histoire des femmes africaines. À bientôt.
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika, malaika.